La moitié de nos problèmes peuvent être réglés dès aujourd'hui. La moitié des problèmes que nous, croyants en Jésus-Christ dans cette salle, avons, peuvent être réglés dès aujourd'hui. Pour cela, il suffirait que nous nous rendions compte de qui nous sommes en Christ. Quel type de problème? Eh bien, j'en évoquerai quelques-uns. Les exemples que je vais citer s'inspirent de cas réels, mais dont j'ai parfois changé pas mal de détails pour qu'ils ne soient pas reconnaissables. Peut-être que ces exemples trouvent un écho dans ce que toi tu vis, plus ou moins directement. Puis-je te demander de discerner là où tu te retrouves. André, 70 ans, était diacre dans une église en France. Il avait la charge de certains aspects matériels du bâtiment. Lorsque son pasteur a proposé de former d'autres personnes pour assurer la relève, il s'est senti menacé. Le but du pasteur n'était pas de le remplacer, mais de l'épauler et d'assurer la continuité à moyen terme. Mais André n'a pas accepté qu'il y ait d'autres personnes qui s'acquittent des mêmes tâches que lui, et par conséquent, il a changé d'église. Barbara est souvent absente de son église locale le dimanche matin pour cause de réunions de famille qui se tiennent au loin. Corentin a subi des maltraitements sexuels durant son enfance et cela le définit en quelque sorte. Il en parle souvent. Il est fort conscient d'être une victime. Il se focalise sur son passé malheureux et ce passé détermine son identité dans le présent. Déborah a du mal à se respecter parce qu'elle est célibataire et ses amis de son âge sont déjà mariés et ont des enfants. Édouard est au chômage mais n'arrive pas à digérer cela et trouve des moyens de le cacher, de laisser penser qu'il a un travail. Fabienne lutte avec la dépression parce qu'elle n'arrive pas à accepter le fait d'avoir une maladie chronique, invalidante, la sclérose en plaques. Georges ne parvient pas à maîtriser ses accès de colère. Il explique que c'est comme ça, que cela fait partie de qui il est. Je suis tout simplement quelqu'un de colérique, comme mon père, explique-t-il. Henriette se sent rejetée par d'autres croyants du fait de son ethnicité. Elle n'a pas l'impression d'être accueillie au sein de l'église qu'elle fréquente. Isaac est très fier d'être gynécologue. D'autres personnes dans l'église ont une haute estime de lui, et à vrai dire, c'est une estime que Isaac recherche. Jacqueline est connue pour les vêtements et les bijoux qu'elle porte. Être à la mode est important pour son sentiment de bien-être. Et à en juger par ses comptes Facebook et Instagram, elle voudrait être valorisée pour son apparence. Kevin est perfectionniste. Il est l'un des responsables d'un groupe d'études bibliques, mais il réagit mal à toute remarque négative concernant son enseignement. Voilà le type de problème qui est réglé lorsque nous saisissons notre identité en Christ. Et nous avons un choix ce matin. Ou bien nous pourrions nous voiler la face, nier que ce type de problème nous guette, ou bien nous pourrions faire face à nos problèmes dans le domaine de l'identité et nous approprier la solution glorieuse en Christ. Pour ma part, je ne le cache pas, moi je me retrouve au moins dans une certaine mesure et moyennant quelques modifications dans plusieurs de ce cas de figure. Moi, donc, j'ai besoin de cette prédication. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, parfois nous trouvons difficile d'accepter la vérité, mais nous demandons ce matin de faire grâce et de nous donner de l'accueillir, de renouveler notre pensée et de nous sanctifier par ta vérité. Que chacune, chacun de tes enfants dans cette salle puisse te glorifier davantage dans ses attitudes et ses actions dans le domaine de l'identité. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre identité. La semaine passée, nous avons pu comprendre notre identité humaine par rapport aux animaux, par rapport au racisme, à l'avortement, à l'euthanasie, par rapport aux questions liées au genre, à l'homosexualité, au rôle de l'homme et de la femme au sein du couple, au sein de l'Église. Déjà, les implications de notre identité en image de Dieu sont immenses. Aujourd'hui, nous devons encore aborder un champ immense. Quelles sont les implications pour notre identité si nous sommes en Christ? Et la réponse est à la fois très difficile à entendre et glorieuse. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand décalage entre ce que nous vivons en matière d'identité et ce que nous devrions vivre. Et cela pour deux raisons. D'abord, du fait du péché, nous avons tendance à vouloir trouver notre identité dans des endroits illégitimes, dans notre travail, dans notre apparence, dans nos relations, dans nos complexes d'infériorité, dans nos rêves. Et deuxièmement, parce que le phénomène d'être en Christ est tellement radical, époustouflant, voire bouleversant, que nous risquons d'avoir du mal à le croire et à l'intégrer à notre vie. Mais j'ai prié afin que nous ayons la possibilité de saisir cette réalité. La voici. Dès le moment de notre conception dans le ventre de notre mère, notre identité est celle d'être en Adam, des pécheurs. Au moment de devenir chrétien, nous nous débarrassons de cette identité-là. Nous sommes dorénavant en Christ. Romains 5 en particulier nous permet de comprendre que nous sommes passés par un transfert de royaume. Au lieu d'avoir Adam comme chef, nous avons Jésus-Christ comme chef de ce nouveau royaume. Nous ne sommes plus en Adam. Romains 6 nous permet de comprendre que notre ancienne identité en Adam, notre ancienne identité dans le péché, est morte. Nous avons peut-être du mal à croire cela, parce que nous continuons à pécher. Et nous risquons de penser que notre identité, c'est un peu en Adam et un peu en Christ. Mais non, nous sommes de nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Romains 6, 6, notre vieil homme a été crucifié. L'homme nouveau vit à sa place. Par ailleurs, nous sommes dorénavant citoyens des cieux, Philippiens 3, 20. Nous avons cette nouvelle appartenance au Christ et au monde à venir. Or, dans le concret, nous continuons à subir les conséquences de notre ancienne identité en Adam. Et matériellement, nous ne sommes pas encore dans le monde à venir. Nous continuons à vivre dans ce monde déchu. Notre corps n'est pas encore racheté. Nous subissons la mort physique. Et le péché continue à nous coller à la peau. Mais, parce que nous avons une nouvelle identité en Christ, nous sommes appelés à rendre le vécu de notre identité conforme à cela. Et cela veut dire des attitudes et des actions radicalement transformées pour André, Barbara, Corentin, Déborah, Édouard, Fabienne, Georges, Henriette, Isaac, Jacqueline et Kevin. La question est de savoir si nous nous rendons compte des différentes facettes et implications de notre identité en Christ. Quatre considérations en particulier, et pour chacune d'entre elles, je vous invite à lire un court passage, mais aussi à savoir que je m'appuie sur d'autres textes bibliques que nous ne lirons pas, mais dont les plus importants sont indiqués sur le plan. D'abord, considérons ensemble la priorité de notre identité en Christ. Lisons Galates 3, 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Si nous avons la foi en Jésus-Christ, nous sommes fils de Dieu. Cela inclut les femmes dans la salle. Ailleurs, l'apôtre Paul précise fils et filles. Mais ici, le fait d'être fils est lié au fait d'être héritier. Héritier des bénédictions de l'Évangile. Le Christ a assumé la punition que nos fautes entraînent. Nous sommes considérés justes. Nous avons un avenir glorieux dans un nouveau monde parfait. Et tout cela parce que nous sommes en Christ. Avez-vous remarqué les façons dont notre union avec le Christ est présentée ici? Verset 27. Baptisé en Christ, c'est-à-dire incorporé en Christ au moment de notre conversion. Le baptême, c'est le signe de cela. Verset 27 encore, nous avons revêtu Christ, nous sommes recouverts de sa justice, nous avons cette nouvelle identité. Verset 28, à la fin, tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et verset 29, nous sommes à Christ ou du Christ, nous lui appartenons. Cette nouveauté en Christ, qu'est-ce que cela donne pour notre identité? Relisons le verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous vous êtes un en Jésus-Christ. En Christ, les questions d'ethnie, juif, non-juif, sont secondaires. Une identité relevant de notre rang socio-économique, esclave, libre, secondaire. Une identité relevant de notre genre, homme, femme, secondaire. Prenons l'un de ces exemples. Au sein de l'Église de Jésus-Christ, l'identité ethnique ne doit absolument pas primer par rapport à notre identité en Christ. Congolais, Syrien, Français, Espagnol, Bolivien, il peut s'agir de barrières dans le monde, Mais l'Évangile transcende ces barrières. La foi en Christ unit une diversité de personnes. Henriette se sent rejetée par d'autres croyants du fait de son ethnicité. Elle n'a pas l'impression d'être accueillie au sein de l'église qu'elle fréquente. Cette église doit apprendre à vivre la priorité de l'identité en Christ. Nous avons une nouvelle identité nationale. Nous sommes citoyens des cieux. Qu'en est-il de Barbara qui est souvent absente de son église locale le dimanche matin pour cause de réunion de famille? En Christ, l'identité familiale primordiale est celle des autres fils de Dieu en Christ. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit que si l'on voulait faire passer la famille biologique avant lui, on ne pouvait pas être son disciple? Nous devrions connaître des liens plus forts au plan affectif avec d'autres croyants qu'avec des non-croyants qui nous ressemblent pourtant au plan culturel. J'ai plus en commun avec vous qu'avec les membres de ma famille biologique qui ne sont pas croyants. Nous avons une nouvelle identité familiale. En Christ, nous sommes fils de Dieu. Or, nous savons à partir d'autres passages que les traits d'identité du verset 28 continuent à exister. Ils ne sont pas gommés. Nous restons hommes ou femmes, avec des rôles distincts, comme on l'a vu la semaine passée. Nous n'avons pas de raison de présenter des excuses pour le fait d'être polonais ou britannique. La famille biologique n'est pas à rejeter. Nous n'avons pas toutes et tous le même arrière-plan, le même rang dans la société, le même salaire. Mais que ces questions puissent primer au sein de l'Église par rapport à notre identité en Christ serait scandaleux. Voilà pour certains traits d'identité qui doivent diminuer en importance du fait de notre identité en Christ. D'autres doivent être mis à mort. Passons à la puissance de notre identité en Christ, la puissance de notre identité en Christ, et lisons le début de Colossiens 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. Notre union au Christ est telle que là où il est, nous le sommes aussi, avec lui. Pas littéralement dans notre corps matériel, mais spirituellement et réellement. Notre vie est cachée avec lui, verset 3. Donc il y a un sens dans lequel nous sommes actuellement assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2 l'affirme aussi. Je sais qu'il n'est pas facile de saisir cette réalité, mais elle comporte une grande puissance pour notre vie chrétienne. L'un des auteurs l'exprime ainsi. Être chrétien, ce n'est pas seulement recevoir quelque chose, c'est être quelqu'un. Une bonne compréhension de notre identité en Christ est absolument essentielle à notre réussite dans la vie chrétienne. Aucune personne ne peut systématiquement se comporter de manière contraire à la façon dont elle se perçoit. Si vous pensez être un bon à rien, vous vivrez probablement comme un bon à rien. Fin de citation. Et revers de la médaille, si nous menons des efforts pour comprendre notre identité en Christ, nous sommes susceptibles de vivre davantage en adéquation avec cette identité. Qu'en est-il? Que Dieu nous donne de comprendre l'intimité de notre union avec le Christ. Je cite des textes de l'apôtre Paul. Nous avons été crucifiés avec Christ. nous sommes morts avec lui. Nous avons été ensevelis avec lui, vivifiés avec lui, ressuscités avec lui. Nous devons souffrir avec lui et nous serons glorifiés avec lui. Voilà notre identité. Un autre auteur l'exprime tellement bien. En tant que chrétiens, nous ne ressentons pas toujours notre proximité avec Jésus. Cela ne change pas la réalité de notre union avec lui. Il nous est dit de nous regarder comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, Romains 6. Parce que c'est la vérité. Nous devons reconnaître qui nous sommes en Jésus, morts au péché et vivants pour la justice. La relation entre nous et le péché change fondamentalement et irrévocablement lorsque nous sommes unis à Christ. L'ancien nous a été crucifié et le péché ne domine plus sur nous. Fin de citation. Et écoutez son illustration, ça marche bien. Notre vieille nature est ce que nous étions en Adam. La mort, le péché, le châtiment, la transgression, voilà l'équipe qui se trouve en Adam. Nous sommes morts à cette équipe. Le contrat a été résilié. Nous représentons maintenant l'équipe en Christ. Être unis avec Christ, c'est comme être placé dans une équipe de football alors que nous n'avons nous-mêmes aucun talent. Bien que nous n'ayons pas mérité notre place au sein de l'équipe, maintenant que nous portons le chandail de l'équipe, nous voulons jouer comme de vrais joueurs de football. Qu'est-ce que cela donne donc? Si nous sommes morts au péché? Eh bien, vous voyez la réponse dans Colossiens 3. Colossiens 3, verset 3. Car vous êtes morts. Verset 5. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres et terrestres, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Georges ne parvient pas à maîtriser ses accès de colère. Il explique que c'est comme ça, que ça fait partie de qui il est. « Je suis tout simplement quelqu'un de colérique comme mon père », affirme-t-il. Non ! Si Georges est en Christ, il est mort aux accès de colère. Et si dans le concret, il fait encore preuve d'accès de colère, ce sont des vestiges de son ancienne nature en Adam qui n'ont aucune place dans son identité en Christ et il doit les mettre à mort. Facile? Non. Mais la lutte est beaucoup plus facile lorsque nous avons compris qui nous sommes en Christ, que le péché, c'est un intrus scandaleux. Facile? Non. Mais les réalités de notre union au Christ représentent un encouragement puissant dans la lutte contre le péché. En Christ, nous avons une nouvelle nature, nous avons revêtu le Christ. Facile? Non. Mais Dieu est à l'œuvre en nous pour promouvoir cette nouvelle identité de caractère. On peut avoir l'impression qu'il procède un peu trop lentement, chez moi en tout cas, mais de temps à autre, on peut être encouragé dans le fait d'avoir effectivement changé d'identité. C'est la saison des élections de mi-mandat aux États-Unis et j'ai une tante qui habite en Californie. Elle nous a rejoints en vacances en Irlande durant l'été passé. Et elle est farouchement démocrate dans ses prises de position politiques. Elle déteste Donald Trump et pointe du doigt le caractère de Donald Trump. Et à un moment donné, c'était cet été, elle s'est tournée vers moi pour me dire à peu près, « Toi, lorsque tu étais plus jeune, toi, tu étais comme Donald Trump. Mais tu ne l'es plus maintenant. » Au moins, elle a constaté un changement en moi depuis ma conversion. Ça m'a donné un peu d'espoir. Et quelle grâce! Quelle grâce que Dieu nous transforme. Mais vous le savez, le problème, c'est que dès que nous trouvons quelques preuves de cette transformation de caractère, nous avons tendance à en être fiers. Nous voudrions faire prévaloir cette transformation de caractère de façon à gagner du mérite auprès de Dieu. Mais la réalité, c'est que ce n'est que notre identité en Christ qui compte pour que nous soyons en bonne relation avec Dieu, au début, au milieu et à la fin de notre vie chrétienne. Nous sommes au troisième point. Je vous invite à lire Galates 3 et les trois premiers versets. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? On devient croyant par la foi, par l'Esprit, par le Christ, et non pas par ses bonnes actions. Mais comment est-ce qu'on continue? Cela pour rester en bonne relation avec Dieu? Eh bien, chaque jour, la seule façon de se prévaloir auprès de Dieu, c'est en s'appuyant sur la mort du Christ, le fait d'être en lui, par la foi. Nous commençons la vie chrétienne et nous continuons la vie chrétienne de la même manière en Christ. Et il ne faudrait pas sous-estimer la portée de cela. Je pense qu'en règle générale, dans nos milieux évangéliques, nous avons bien compris que nous entrons en bonne relation avec Dieu uniquement par grâce. Mais je ne suis pas persuadé que nous avons toujours compris que c'est ainsi que nous continuons. Parce que par nos attitudes et nos actions, nous laissons penser que le Christ ne nous suffit pas pour notre identité au jour le jour. Et nous poursuivons tellement aisément notre sécurité ailleurs qu'en Jésus-Christ. Non pas pour le fait d'être devenu chrétien, mais comme chez les Galates, pour le fait de poursuivre notre identité, notre vie chrétienne et notre service chrétien. C'est ce type de cas de figure. Je me réveille demain matin en me disant, moi je dois être un chrétien approuvé de Dieu, parce que moi je m'occupe d'un institut biblique. Dans la perspective de l'Épître aux Galates, ça c'est une forme d'esclavage, pensez comme ça. Esclavage qui empêche de connaître la joie, et ça tombe sous le sens parce que la joie est dans notre relation avec Dieu qui ne passe que par le Christ. Vous vous souvenez d'André? Menacé par des jeunes formés pour épauler son travail de diacre, on a envie de lui dire, mais ton identité est en Christ, non pas dans ton rôle de diacre. Le fait d'être en Christ suffit pour l'approbation de Dieu, pour l'assurance que tu es aimé de lui, pour la joie de ton salut, pour la satisfaction, la libération, le repos de ton âme. Il nous est dit que les faux docteurs qui essayaient d'influencer les Galates étaient préoccupés par la façon dont ils étaient perçus par les autres. Mais notre auditoire, c'est Dieu. Combien c'est libérateur. Déborah a du mal à se respecter parce qu'elle est célibataire et ses amis de son âge sont déjà mariés et ont des enfants. Et le célibat peut être difficile. Mais du mal à se respecter? Oh, Déborah, tu jouis du respect de Dieu à ton égard. En plus d'être en image de Dieu, tu es en Christ. Tu es chérie de Dieu. Tu as une identité qui est porteuse de repos pour ton âme. Édouard est au chômage, mais n'arrive pas à digérer cela et trouve des moyens de le cacher, de laisser penser qu'il a un travail. Oh, Édouard, combien ça peut être décourageant d'être au chômage. Mais l'Église voudrait te porter par ses prières et peut-être son aide pratique. Et sois affranchi de cet esclavage de trouver ton identité dans ton travail. Alors que tu as une identité en Christ qui fait que Dieu t'approuve et trouve son plaisir en toi. Tu es pardonné par Dieu, la pression n'est plus là. Connais le repos pour ton âme. Connais la satisfaction en Christ. Connais la joie de la libération en Christ. Isaac, le gynécologue fier, cesse d'être fier de ton métier que tu as pas pure grâce et trouve ta fierté en Christ. C'est grâce à lui que tu es approuvé par Dieu. Il ne faudrait pas abandonner ta foi en Christ pour poursuivre une vie d'esclavage du fait de trouver ta sécurité dans ton métier. Ou Jacqueline qui trouve son sentiment de bien-être dans les vêtements et les bijoux qu'elle porte. Et par l'approbation que les autres lui donnent à propos de son apparence, on apprécie les beaux vêtements, les bijoux. Mais ce n'est pas de là que provient l'approbation. Oh, Jacqueline, Jacqueline, Dieu te trouve belle en Christ. Nous n'avons pas besoin de rechercher une identité autre que celle qui satisfait l'âme, l'identité qui est en Christ. Et Kevin, ton identité ne se trouve pas dans ta bonne prestation lorsque tu diriges l'étude biblique. Tu peux être libéré de cet esclavage du fait de ton identité en Christ. Tu es saint en lui, aimé de Dieu, et Dieu sourit à ton égard parce que tu es en Christ. Galates 5:1, c'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage. Repentons-nous de la recherche d'une autre identité qui déçoit. Vous avez peut-être envie de me dire, je comprends en effet que l'approbation de Dieu devrait suffire pour moi. Il n'en reste pas moins que nous formons un seul corps dans l'Église et les relations les uns avec les autres jouent pour la vie chrétienne. Il est vrai que nous devrions terminer par considérer la promesse de notre identité en Christ. Lisons Philippiens 3 à partir du verset 8. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Voilà encore l'union avec le Christ. Et dans le contexte, par rapport au Christ, tout autre trait d'identité possible, c'est comme de la boue. J'espère que nous avons compris que notre identité en Christ est précieuse. Il n'y a pas de rival possible. Mais à ce stade de l'histoire, dans le concret, il ne nous est pas possible de vivre intégralement tout aspect de cette nouvelle identité. Nous sommes en Christ et non en Adam, mais nous ne possédons pas encore tout ce qui appartient à ce nouveau régime. Et les séquelles de l'ancien régime continuent à nous affecter. Et donc, si jamais nous avions des attentes irréalistes pour le vécu dans ce monde de notre identité en Christ, il faudrait les recadrer. Écoutons encore Paul, Philippiens 3, 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Un peu plus loin, verset 20. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. En Christ, dans le monde à venir, nous ne connaîtrons plus de péché, de peine, de mort, de maladie, de frustration. Nous aurons un corps ressuscité parfait. Corentin, victime de maltraitement sexuel durant son enfance, ça ne devrait aucunement déterminer son identité dans le présent, mais être totalement guéri de toutes les conséquences de cela, il faudrait passer en terre encore. Fabienne, qui souffre de la sclérose en plaques. Oh, quelle peine pour elle. Oh, ce n'est pas cela qui devrait définir son identité, mais vivement son corps ressuscité. Et nous allons recevoir des blessures du fait de malentendus qu'entraîne la mauvaise communication. C'est un constat de fait dans ce monde déchu. Nous allons subir des blessures et provoquer des blessures à cause du péché qui continue à subsister en nous. Mais même ces blessures, subies ou données, peuvent être gérées dans le cadre de notre identité en Christ. Les fautes sont pardonnées. Nous sommes considérés justes en Christ. En Christ, nous pouvons nous supporter réciproquement, nous pardonner réciproquement, fort de la sécurité de notre identité en Christ. Et vous voyez que la moitié de nos problèmes sont réglés lorsque nous nous rendons compte de qui nous sommes en Christ. Nous l'avons vu, revêtus de sa justice, nous constatons que notre identité en Christ prime par rapport à toute autre identité possible. Et donc, nous reléguons certains traits d'identité à leur place secondaire. Nous sommes au bénéfice de la puissance de notre identité en Christ pour lutter contre le péché. Nous sommes libérés de la nécessité de rechercher une identité ailleurs, car nous connaissons le repos et la sécurité en Christ. Et nous avons l'espérance en Christ de la gloire à venir, la réalisation concrète et parfaite de ce que nous sommes déjà en lui. Quelle identité glorieuse que la nôtre en Christ !